Pour la synthèse, nous, on va dire plus côté chercheur, on s'est demandé si du coup ces rapports de classe, de genre et de race dans les centres sociaux ne seraient pas comme un éléphant dans le couloir, une chose, un sujet qui prend finalement toute la place, mais qu'on fait semblant de ne pas voir. Alors, hop, c'est juste ici. Désolée. Donc, ces trois termes-là qu'on utilise, donc les termes de classe, de genre et de race, ne sont pas choisis par hasard, mais ce sont bien des concepts qui révèlent en fait des rapports sociaux historiques, structurants, qui organisent en fait la vie sociale et parfois à notre insu. Que ce soit la classe, la race ou le genre, en fait, ce sont des termes qui ne sont pas d'usage courant, et ce sont même en fait des termes qu'on n'aime pas, beaucoup utiliser. Et en tant que sociologue, nous, on propose justement d'étudier ces rapports, ces différents rapports sociaux, et de voir en fait comment ils traversent, comment ils structurent les situations du quotidien, ou au contraire, comment ils peuvent aussi s'effacer. Et je précise que notre regard ne vise pas à chercher ou traquer des comportements explicitement racistes ou sexistes, mais au contraire à repérer en fait la présence de ces rapports inégaux dans le quotidien, dans des centres sociaux. Donc on peut se demander finalement si, on peut se demander plutôt comment ces rapports de domination sont saisis. Travailler dans les centres sociaux. Je précise aussi que ces questions-là faisaient pas partie, comme on l'a dit tout à l'heure, faisaient pas partie au départ des axes de la recherche. Et en fait, elles sont apparues en cours de route par le biais de nos observations, par le biais d'ateliers de coproduction, etc. Donc nous, pour y répondre finalement là, à cette question, on organise notre propos en trois temps. Premièrement, il s'agit en fait de comprendre pourquoi les rapports de domination sont peu pris en compte dans les centres sociaux. Ensuite, on va analyser comment ces rapports de domination s'expriment au quotidien. Et enfin, on va questionner les situations d'entre-soi et précisément un entre-soi féminin. Donc pour cette hétérogénéité qui est peu prise en compte, les enquêtes menées dans les centres sociaux de la région révèlent un paradoxe. En fait, d'un côté, d'un côté, les centres sociaux apprécient, valorisent l'accueil de publics divers culturellement et mixtes socialement. Mais d'un autre côté, cette hétérogénéité-là, cette hétérogénéité sociale, ethno-raciale, religieuse, en fait, elle va susciter un malaise et on voit qu'elle est peu travaillée. Je vais prendre l'exemple d'un centre social qui a été en fait confronté à la demande d'un groupe de femmes du quartier, marocaines, algériennes, pour un prêt de salle pour organiser une fête traditionnelle du calendrier religieux et aussi pour organiser chaque semaine un cours d'arabe à l'intention notamment des femmes musulmanes du quartier. Et en fait, ces demandes-là, elles suscitent un débat au sein de l'équipe du centre social sur notamment l'application pratique de la laïcité et sur la place des religions dans la structure. Donc la question, en fait, dans ce centre social-là, la question, elle se pose de la manière suivante. Donc, le centre social doit-il soutenir cette demande au nom des valeurs de mixité et de laïcité Est-ce que le centre social plutôt doit soutenir cette demande au nom de la participation des habitants et là des habitantes, ou est-ce qu'il doit la refuser justement au nom de ces valeurs-là de mixité ou de laïcité? Souvent, en fait, le centre social, les centres sociaux veulent faire une place en fait à ces activités-là, culturelles ou même religieuses, tout en veillant à ne pas s'adresser à un seul public, sous peine d'être accusé de céder au communautarisme. Et parfois, l'action ou l'événement se voit refusé du fait de son rapport qui est trop étroit à la religion, à moins que le caractère culturel de l'événement soit ostensiblement mis en avant. Donc on voit bien ici que les centres sociaux sont souvent pris dans une double injonction démocratique, c'est-à-dire de la participation de tous et de toutes d'une part, et en même temps d'une occupation laïque des locaux d'autre part. Dans les centres sociaux établis dans les quartiers populaires où les migrations font partie de l'histoire du quartier, la question est souvent celle de la réputation du centre social dans et au-delà du quartier, et les salariés veulent finalement éviter de donner l'image d'un centre social qui donnerait trop d'importance à une population donnée, donc immigrée ou pauvre, et travaillent à une mixité réussie. Donc on organise des moments d'échange, de convivialité, par exemple sous la forme de repas interculturels. Et cette volonté-là, en fait, de s'adresser à tous et à toutes est importante. Dans l'un des centres sociaux, on réfléchit même à la suppression, en fait, du terme social de centre social afin de montrer que la structure n'est pas réservée aux pauvres ou aux cas sociaux. Donc on voit ici que certaines demandes et l'image du centre social suscitent des débats entre les salariés. Mais premièrement, ces débats-là ne sont pas discutés avec tous et toutes. Et ces débats sont aussi perçus, ces demandes, cette image-là du centre social, sont perçus comme un problème de diversité sociale et culturelle, et non comme des signes, en fait, de rapports inégaux à l'œuvre dans la société en général, mais aussi à l'œuvre, enfin, dans le centre social, dans les centres sociaux en particulier. Maintenant, pour la division sociale genrée et racialisée des rôles, la composition, en fait, sociale des publics accueillis dans les centres sociaux, elle diffère selon leur implantation territoriale, et dans les structures situées en milieu rural ou en milieu semi-urbanisé, on retrouve une majorité de femmes blanches retraitées. Et à l'inverse, dans les centres sociaux implantés dans des quartiers populaires, le public accueilli est en grande partie des personnes étrangères ou issues d'émigration. Et ce qu'on voit, en fait, lorsqu'on observe plus minutieusement les activités et les pratiques mises en place, on repère en fait une répartition sociale, genrée, racialisée, qui est parfois révélatrice des hiérarchies sociales. Je vais donner plusieurs exemples. En fait, on peut le voir donc dans les centres sociaux, qui sont le plus souvent, comme ça a été dit, qui sont le plus souvent fréquentés par les femmes et les plus souvent fréquentés par les femmes, et les salariés sont elles aussi plus souvent des femmes, plus que des hommes. Et les hommes, eux, sont souvent des... Enfin, vont être souvent, justement, comme on disait, soit au CA, soit dans des postes de direction, et pas n'importe quels hommes, plutôt des hommes blancs et de classe moyenne. On retrouve en fait aussi cette répartition dans l'un des conseils citoyens qui a été étudié, où en fait une femme s'occupe davantage de la gestion administrative, alors que les hommes, eux, s'imposent davantage dans l'animation et la prise de parole lors des réunions. Et ces constats, en fait, ils ne sont pas discutés. Et les problèmes plus souvent rencontrés par les femmes, comme le fait d'élever seules ses enfants, ne sont pas pris en compte et sont peu travaillés collectivement. Et puis il y a d'autres exemples aussi, comme l'une des épiceries sociales et solidaires enquêtées, où on observe que les femmes dans cette épicerie-là réalisent un travail quotidien de vente, de mise en rayon, de nettoyage, finalement des tâches qui s'apparentent à un travail, enfin du travail domestique. Mais ce ne sont pas là toutes les femmes qui assument ces tâches. Ce sont bien celles qui sont issues des couches les plus populaires, peu ou pas diplômées, habitantes du quartier. Et d'autres y échappent, notamment celles et ceux qui disposent de plus de capital culturel et économique et qui accèdent en fait à des positions de membres de CA, de bureau, à la présidence, à la trésorerie, etc. Donc, parfois aussi, il faut le noter, que le Conseil citoyen ou l'épicerie sociale et solidaire, parmi celles qui ont été enquêtées, elles peuvent être aussi gérées principalement par des femmes. Enfin, il y a bien d'autres exemples. Donc juste pour résumer, nous constatons que l'organisation des centres sociaux comme celle des conseils citoyens, comme celle des épiceries solidaires, donne à voir qu'ils ne sont finalement pas épargnés des rapports de domination de classe, de genre et de race, qui reflètent finalement les inégalités en place dans la société.
Alors, je vais poursuivre. Si on l'a vu, hein, les rapports de domination et de discrimination semblent globalement occultés dans les centres sociaux, tout du moins au moment de l'enquête. Nous avons observé qu'il y avait toutefois certaines formes d'entre-soi qui étaient davantage acceptées. Et alors, pour définir l'entre-soi, en fait, on s'est appuyé sur les travaux d'une sociologue, Sylvie Tissot. Et cette sociologue donc définit les formes d'entre-soi comme le regroupement de personnes aux caractéristiques communes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre que l'entre-soi recouvre des significations et des traitements différents selon les catégories sociales, et que ces significations et ces traitements différents sont étroitement liés au paradigme de la mixité sociale et de la diversité culturelle. Elle explique notamment que, évidemment, ces formes d'entre-soi sont le plus souvent en fait entretenues dans le secret lorsqu'il s'agit des classes supérieures et des élites, et que ces formes d'entre-soi sont, à l'inverse, perçues comme problématiques dès qu'il s'agit des groupes, des classes populaires, et notamment des groupes minorisés et stigmatisés. Pourquoi ? Parce que alors ça sous-entend l'idée d'une exclusion plus ou moins active et consciente des autres, et que ça tombe alors, et que ces formes d'entre-soi, elles tombent alors sous l'accusation d'une forme de repli communautaire. Donc on a observé dans les centres sociaux que une forme d'entre-soi, et notamment l'entre-soi féminin, est plus facilement accepté que les autres formes d'entre-soi, et que la thématique homme-femme, ou plutôt femme-homme, est plus facilement prise en compte. Alors on l'a observé notamment dans des espaces de convivialité non mixte, même si le fait que certaines activités soient plus fréquentées par certaines fractions de la population, eh bien ça fait l'objet de controverses. Et on s'est demandé, en fait, finalement, pourquoi cette forme d'entre-soi et cette forme d'entre-soi féminin était-elle ou était-il plus souvent acceptée, alors même que, ça a été rappelé tout à l'heure, l'objectif majeur des centres sociaux est de promouvoir la mixité. Alors, il nous semble qu'il y a deux référentiels qui semblent expliquer cette contradiction. Donc, ces deux référentiels sont ceux de la cohésion sociale et de l'intégration. Et ce qu'on observe, c'est que dans certains centres sociaux, effectivement, une attention particulière est souvent accordée au public féminin, qui fait alors l'objet d'actions spécifiques, hein, d'actions à visée, on pourrait dire, émancipatoires, et que cette attention, en fait, elle est ancrée aussi dans un contexte local, politique, elle est effectivement étroitement liée à la façon dont les politiques publiques locales se représentent la cause des femmes depuis les années 90, en particulier celle qui sont perçus comme issus de l'immigration et à qui il est question de redonner un sentiment de dignité et d'égalité. Et dans ce contexte-là, il semble effectivement particulièrement difficile pour les centres sociaux de ne pas favoriser l'entre-soi féminin, soit parce que les femmes du quartier ne participeraient alors plus à l'activité en cas d'imposition de la mixité femmes-hommes, soit parce qu'il est impulsé de l'extérieur par les bénévoles, et comme c'est une demande impulsée de l'extérieur par les bénévoles, on ne peut pas la refuser. Autre élément qui peut expliquer que cette forme d'entre-soi féminin soit plus facilement acceptée ou plus facilement valorisée, c'est qu'effectivement l'outil de la non-mixité est aujourd'hui reconnu comme une norme centrale dans les mouvements féministes, et que ça constitue une des modalités d'action et d'organisation militante, et ça depuis les années 70. Ça renvoie également, ça c'est un autre élément, à un principe de réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les inégalités de genre, en particulier dans les quartiers populaires, sont aujourd'hui de plus en plus reconnues, et les espaces non mixtes considérés comme des espaces sûrs où les femmes peuvent partager des expériences perçues comme humiliantes ou s'affranchir de l'influence des dominants. Donc, dans les centres sociaux, l'entre-soi féminin est ainsi, on pourrait dire, d'autant plus accepté qu'il s'accommode aussi des valeurs qui y sont défendues, on le rappelle, celle de la mixité sociale, celle de la laïcité, et que surtout les groupes de femmes qui s'y construisent sont le plus souvent caractérisés par une hétérogénéité sociale. Et cette hétérogénéité sociale est importante parce qu'elle va permettre de déjouer en fait la stigmatisation des formes d'entre-soi qui sont ordinairement associées aux classes populaires, puisque comme je l'ai dit, ordinairement, on associe aux classes populaires, à leur forme d'entre-soi, des représentations plus stigmatisantes. Et lorsque ce sont des groupes de femmes qui se réunissent et qui sont caractérisées par une hétérogénéité sociale, ça permet de déjouer cette stigmatisation. Donc l'entre-soi féminin est accepté ou vu comme acceptable pour plusieurs raisons à certaines conditions. D'abord, on l'a vu, il y a une norme féministe de l'entre-soi qui a une longue histoire et le légitime. Ensuite, il est accepté à condition que cet entre-soi soit perçu comme émancipateur. Toutefois, on reste dans l'occultation des autres formes de domination, comme si le groupe de femmes était constitué d'un tout homogène, comme si elles vivaient toutes la même forme de domination. Et on peut se demander là si la valorisation d'un entre-soi féminin ne contribue pas, parfois aussi, à l'invisibilisation des autres rapports de domination. Pour conclure, puisqu'il me reste quelques minutes, ou une minute, je crois qu'il est important de resituer cette question, en tout cas de tisser les liens entre cette question sur les rapports de domination avec celle qui a été précédemment évoquée sur la politisation. On se demande si le développement du pouvoir d'agir des habitants ou des habitantes peut est-ce que ça peut se passer d'une réflexion plus approfondie sur les rapports de domination. Et là, on rejoint quand même ici les critiques qui ont été adressées par certains chercheurs, hein, à propos notamment de la notion de pouvoir d'agir, comme ça a été évoqué ce matin, puisque la notion de pouvoir d'agir pour tend, lorsqu'elle tend, comme ça a été présenté là à l'instant, à invisibiliser les rapports sociaux de domination, dans ce cas-là, elle peut paradoxalement conduire à une forme de dépolitisation. Donc on a observé que finalement, favoriser l'hétérogénéité sociale dans les groupes conduit souvent à un processus de dépolitisation du discours, tout simplement parce que les points de vue qui articulent les dimensions raciales, religieuses et de classe sont généralement évacués des discussions au profit d'une identité commune, d'un « nous hein, », qui peut être l'identité de femme ou la question d'être de se faire reconnaître comme femme du quartier ou tout simplement par souci de faire groupe. Et ça, évidemment, ça contribue ou ça conduit plutôt à un processus de dépolitisation du discours, de la non prise en compte des autres rapports de domination. Donc, pour conclure, la prise en compte des rapports sociaux de domination est freinée là par deux éléments qui est structurant dans les espaces qui ont été étudiés. D'une part, la promotion de la mixité sociale qui induit de mixer tous les publics et d'inviter ainsi des formes de conflictualité et de favoriser, ou au nom, ça favorise la convivialité. Et puis, deuxième point, l'injonction à se situer dans le registre de l'intégration et de la cohésion sociale. Et là, ces éléments-là empêchent la montée en généralité sous le mode, en tout cas, de la dénonciation des dominations, de la dénonciation des discriminations vécues, et voilà, ça contribue là encore à une forme de dépolitisation des débats ou des échanges, des formes d'action dans les centres sociaux.